Bonjour. Ah non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Bonjour tout le monde. Bonjour les amis. J'espère que ça roule. Est-ce que vous allez bien en ce lundi? On va se remettre dans le bain de l'actu. L'actu politique est toujours aussi déprimante, hein. Je vous spoil un petit peu la fin. Bonjour, 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 bonjour. Je me laisserai jamais de ce drop à la fin. T'as vu ça? Est-ce que vous allez bien? Wesh la zone. Bonjour tout le monde. Est-ce que ça se passe tranquillement pour vous? Ça déprime à mort. Ah merde, t'es déprimé? Oh courage, je sais ce que c'est. T'inquiète. Merci Corials pour ton resub. Merci Eredis. Merci Ren. Merci Pemf. Merci Océane. Merci Monsieur Fritz. Merci AmianteLol. Merci Monsieur Machin. Merci Rainbow. Pour vos abonnements, merci beaucoup. Merci Fibolapin, merci Mbaral. J'ai posé ma démission et trouvé un autre taf dans la même semaine. Oh, chapeau! Très bien. Avant de parler d'actualité déprimante, comment va Lopoticha? Lopoticha va bien. Lopoticha va bien. Elle a fait un truc trop bizarre tout à l'heure, il y a 10 minutes, avant de commencer le live. J'étais là derrière mon bureau en train de bosser tranquillement. Et elle est venue, elle est sortie de la chambre, elle est venue là juste à côté de mon bureau. Alors, dès qu'elle a vu que j'étais là, elle a fait demi-tour, elle s'est barrée. Mais elle avait jamais fait ça, en pleine journée comme ça, sans prévenir, sortir de sa cachette. Elle a dû se dire que l'humain n'était plus là. Et voilà. J'ai trouvé un boulot, mais à Paris. Good news, je serai dans le public de Baxi. Très très bonne nouvelle. Ça c'est cool, t'as trouvé quoi comme boulot? Ça prépare des cartons en vue de mon double boulot dans la territoriale en Normandie. Ah, t'es dans la territoriale? C'est cool ça, la Normandie. C'est cool. Je suis dans ma semaine de partiel, je sors de droit. Entre envie de mourir et envie de me bourrer la gueule. Tu peux faire les deux. T'inquiète pas. Elle est téméraire. Bah ouais, écoute. Elle s'est toujours pas habituée à la présence de son humain. Non, 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 elle a toujours aussi peur de moi. Elle est absolument terrorisée. Tu nous manques sur Flight Simulator, Jean. Eh ouais, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Flight Simulator. En plus, j'ai un problème matériel là. Bref. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait Flight Simulator. Ça te fait pas mal à la tête à la longue de porter des lunettes avec le casque? Moi, je tiens plus une heure. Il faut que tu trouves un casque qui s'adapte à ça. Moi, en l'occurrence, j'ai des coussinets là qui sont très très mous, donc ça me fait pas mal. Mais si t'as un casque qui te fait mal avec les branches de lunettes, c'est hyper chiant. Il paraît que le dernier Baxit s'est fait défoncer sur Twitter. Moi, j'ai fermé mon compte. Est-ce qu'on peut me résumer? Bah, en gros, on a reçu Olivier Marleix, donc le président du groupe LR à l'Assemblée nationale. C'est le mec qui est le plus au cœur de l'actualité, hein, parce que c'est évidemment avec les Républicains que se jouent les négociations autour du projet de loi immigration. Et il se trouve que Olivier Marleix nous a fait le plaisir de sa présence et il nous a fait la sincérité de ses positions, parce qu'il a été très très raide sur les questions migratoires. Et que ça n'a pas plu à pas mal de gens sur Twitter. Alors après, bon, c'est des militants de gauche qui sont pas satisfaits quand il y a des gens pas de gauche qui sont sur Baxit. Ça, on le sait, on est habitué. Ça fait 3 ans qu'elle existe maintenant, cette émission. Donc ouais, il y en a qui sont énervés, ouais. Dans la territoriale, dans la culturelle. Ok, d'accord. Eh ben, félicitations à toi et bon courage pour ton boulot en Normandie. C'était âpre le dernier Baxit pour une fois qu'une chroniqueuse challenge un invité. Mais ouais, c'était âpre. C'était âpre avec Olivier Marleix. Mais bon, on continuera évidemment à recevoir des personnes de droite sur Baxit, tout à fait. Ça, de toute façon, on s'est engagé. Hein. Nous, on reçoit les personnes qui font l'actualité politique et on ne reçoit pas des invités politiques parce qu'on les aime bien. C'est pas du tout pour ça qu'on reçoit un invité politique. Comment on fait pour ne pas être déprimé avec l'actu? Vraie question. Ça, je suis d'accord avec toi. L'actualité en ce moment, elle est totalement déprimante. Totalement déprimant. T'as la loi immigration, t'as les budgets qui sont même pas intéressants puisque ça passe par 49-3, t'as le conflit israélo-palestinien, t'as l'extrême droite qui vient de gagner en Argentine. Voilà. La guerre, l'écologie. L'écologie, on va en parler aujourd'hui, on va faire une petite revue d'actu. J'ai sélectionné quelques articles pour qu'on se remette dans le bain de l'actualité et qu'on voit un petit peu ce qu'on a. Les personnes de droite savent avec quels oignons ils sont cuisinés en venant ici, mais ça leur offre une tribune différente, donc intéressante pour eux quand même. Oui, bien sûr.
Bien sûr.
L'Ukraine aussi, bah oui, bien sûr, le conflit ukrainien oui, qui continue. Ça va parler du rapport Oxfam. Ouais, on va parler du rapport Oxfam sur les. C'est. On va parler de. On va parler de du rapport d'Oxfam sur les inégalités. J'ai plus souvent lu ultra-libéral qu'extrême droite pour l'Argentin. Oui, c'est vrai, c'est un libertarien. De ce que j'ai compris, hein, moi j'ai lu ça de loin. Est-ce que Nicolas Dupont-Aignan serait possiblement invité ou tu le considères à l'extrême droite? Nicolas Dupont-Aignan est une personne d'extrême droite et j'ai pas l'intention de l'inviter sur Baxit. En même temps, Nicolas Dupont-Aignan, il ne fait pas l'actualité politique. Je veux dire, il n'est pas à la tête d'un groupe parlementaire, il n'est pas. On peut pas dire qu'il fasse l'actualité politique. Suivre les streams de gens avec ce chat de qualité, ça aide. Mais oui, bien sûr. Très drôle le moment où Marlex a voulu blaguer sur Los Republicanos. Moi, il m'a surpris Marlex au moment où on a parlé de l'électorat LR, où il a complètement reconnu, mais d'un point de vue complètement détendu, il a complètement reconnu que l'électorat LR s'était barré chez Emmanuel Macron. Il y a eu un moment comme ça, il a dit, moi je lui, oui c'est ça, je lui ai parlé de l'électorat de droite pro-business européen. Et il m'a dit, et il a répondu, ouais, bah, oui, il suffit de regarder les chiffres, maintenant ils sont chez Macron. Il avait l'air hyper détendu, quoi. Des jeunes LR aussi. Ouais, la question qui lui a été posée sur les jeunes, ouais. Quelqu'un affilié LR mais avec des idées et des propos dignes de l'extrême droite, est-ce que tu l'inviterais quand même ou pas? Bah regarde, on a reçu Olivier Marleix qui est le président du groupe LR. En plus, nous on avait plein de questions à lui poser, Olivier Marleix, notamment sur son positionnement à lui, parce qu'Olivier Marleix, c'est quand même un sarkozyste de la première heure. Il a été conseiller politique de Nicolas Sarkozy pendant la présidence de la République, très très proche de Nicolas Sarkozy. Or, Nicolas Sarkozy aujourd'hui, il est où? Il est chez Macron. Il n'est pas à l'extrême droite. Il n'est pas chez LR, il est chez Macron. Or, Olivier Marleix, lui, semble s'aligner beaucoup plus sur la lecture du monde de Marine Le Pen. C'est quand même très particulier pour ce mec-là. C'est un petit peu ce que disait Hugo Couturier d'ailleurs dans l'introduction. Il disait qu'en fait, LR était en train de se PCFiser, c'est-à-dire de devenir très minoritaire nationalement, mais d'être très ancré localement dans certains endroits, quoi. Quand t'as demandé la différence entre LR et le RN, il n'était pas hyper sûr de lui. Ah, il a même pas su répondre. Hein. On n'a pas eu de réponse convaincante sur la différence fondamentale entre les Républicains et le Rassemblement national. Il a essayé de nous expliquer que les Républicains voulaient, en fait, que les Républicains n'étaient pas populistes et que les Républicains voulaient l'unité nationale entre les pauvres et les riches, entre tout le monde, etc., en faisant l'opposition avec Marine Le Pen, qui, elle, ne fait que critiquer les élites, et qui donc ne veut pas l'unité du pays, quoi. Il constitue quand même un socle de droite au niveau idéologique. Bah, moi, c'est toujours la même question, hein. C'est quoi le socle de la droite aujourd'hui, des républicains, c'est quoi leur socle de pensée? Il a juste parlé du populisme. Ouais, c'est ça, il a juste parlé du populisme pour se différencier de Marine Le Pen. C'était pas hyper convaincant, quoi. Cette question sur la différence entre LR et le RN était incroyable de non-préparation. C'est pourtant une question qu'ils doivent recevoir souvent, non? Ils devraient avoir une réponse prête et solide. Je suis d'accord avec toi. Moi, je m'attendais à une réponse prête et solide de la part du président du groupe LR à l'Assemblée, et non, ça avait l'air beaucoup plus. Il était beaucoup plus prolixe sur son opposition à Emmanuel Macron que sur son opposition à Marine Le Pen, quoi. Est-ce que tu as pu débriefer avec Marlex? Non, il est parti directement, il avait un rendez-vous. C'est un peu comme le PS, ils laissent les autres proposer une offre politique, puis ils disent qu'ils sont plus ou moins d'accord. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu un positionnement relatif, quoi. Ça dépend de ce que disent les autres. On se positionnera après que les autres se soient exprimés, quoi. Je l'imaginais mal rester pour une bière. Oui, non, non, il avait pas envie de boire une bière. Mais le public, par contre, vous étiez au top. Vous étiez au top. Merci, hein, les gens. Ça fait toujours plaisir de passer du temps après à boire des bières et à discuter avec les gens du public. Il vise déjà clairement un poste dans le futur gouvernement supposé RN. Ouais, je vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu as une définition claire de ce que tu classifies en tant qu'extrême droite? En l'absence de cette définition, ça va être compliqué pour toi de défendre tes choix d'invités. Non, mais l'extrême droite en France est représentée par le Rassemblement National et Reconquête aujourd'hui. Après, il y a des partis qui gravitent autour, il y a des personnalités qui gravitent autour, il y a des personnalités qui en sont proches, et il y a d'autres pour lesquelles il y a des points d'interrogation. Mais encore une fois, on ne va pas s'empêcher d'inviter des invités sur Backseat sous prétexte qu'on n'aime pas leurs idées politiques. Backseat, c'est une émission plurielle. On reçoit des invités différents. On a toujours fait ça. On a toujours reçu des gens de droite, des gens du centre, des gens de gauche, des gens d'extrême gauche sur Backseat. Et on continuera à le faire. Et on le fait au gré de l'actualité. D'ailleurs, l'émission de ce jeudi, c'est une émission qui est en partenariat avec France Digital, organisée à l'occasion de l'Impact Day. Donc on va parler d'innovation et de, on va parler des startups et des, enfin des startups, pas que des startups, mais des boîtes qui font de l'innovation et notamment des innovations à impact social, environnemental, dans l'agriculture, etc. On va parler de tout ça. Ça va pas te parler de doigts. C'est eux qui s'appellent France Digital, hein, c'est pas moi. C'est eux qui s'appellent France Digital. Et donc, on est partenaire. Backseat, c'est pas une émission d'Usul. Non, Backseat n'est pas une émission d'Usul. Usul participe à l'émission Backseat. Je t'ai pas senti satisfait de la dernière émission Backseat, je me trompe. Si, si, alors c'était une émission qui était un peu plus dure que d'habitude parce qu'Olivier Marleix, il a été quand même pas mal bousculé par les chroniqueurs. Et moi, je me suis demandé si. Je me suis demandé à quel. Enfin, quand on reçoit un invité sur le plateau de Backseat. Ouais, attends, j'ai une miquette. C'est dégueulasse. Pardon. Quand on reçoit un invité sur Backseat, bah déjà, on l'invite. Donc, la moindre des choses, c'est de lui poser des questions. C'est qu'on. À mon avis, il faut qu'on prépare mieux nos émissions. C'est aussi simple que ça. Les chroniqueurs n'étaient pas dingues avec un invité de droite. Oh, ça dépend des moments. Il y a eu un moment où c'est monté dans les tours avec Latifa, et je me suis d'ailleurs demandé comment est-ce qu'on fait pour désamorcer une situation quand ça peut arriver hein, sur Backseat, qu'il y a une situation tendue entre un chroniqueur et un invité. Comment est-ce qu'on fait pour désamorcer quoi? Vu comment Marlex s'est fait bousculer, vous n'êtes pas prêt à recevoir une autre personnalité de LR. Mais si. T'inquiète pas. Est-ce qu'on peut dire officiellement que Backseat est une émission de gauche? Backseat, c'est ce que tu veux que ce soit. C'est toi qui décides de le mettre dans un placard si tu le veux. Ou dans un tiroir. Comme dans la vie, balance des photos du Potichat. J'ai pas de photo du Potichat parce que je la vois jamais. L'émission m'a mis un peu mal à l'aise à ce moment-là. Ah ouais, parce que tu trouves qu'on y est allé trop fort avec Olivier Marleix? Tu vois, il y en a d'autres qui trouvent qu'on n'y est pas allé assez fort. Les chroniqueurs, ils sont là pour débattre ou pour analyser la vie politique? Les deux. Chroniqueurs, ils sont là. Les chroniqueurs, on les invite hein, sur le plateau de Backseat. Ils viennent proposer et présenter leurs analyses dans la première partie, la partie des sujets de la semaine, et participer à l'interview et à la discussion avec l'invité de la semaine, avec l'invité politique. Est-ce qu'elle va bien, Zara? Elle continue à s'approcher de toi. Écoute, à part aujourd'hui où elle nous a fait une sortie de chambre bizarre en pleine journée, elle va bien, ouais. Peut-être un peu trop de coupage de parole de la part d'Hugo, enfin, c'est mon avis. D'accord. Après, les chroniqueurs, ils font pas un boulot facile, hein. C'est pas facile d'être chroniqueur sur Backseat, c'est pas évident, hein. Déjà, c'est une émission plurielle. Donc, il y a des invités politiques qui plaisent pas forcément aux chroniqueurs. Mais ça, c'est le jeu. Et puis ensuite, le délai est contraint, la prise de parole est contrainte. C'est pas facile, facile d'être chroniqueur sur Backseat. Les chroniqueurs étaient plutôt véhéments, les viewers aussi, le public sur Twitter aussi, ça représente malheureusement la majorité du public de Backseat qui se retrouve dans ce schéma plutôt extrémiste malheureusement. Eh bien je suis pas d'accord avec toi, la majorité du public de Backseat est un public silencieux. C'est pas des gens qui commentent ni dans le chat ni sur Twitter, c'est des gens, et notamment ce sont des personnes éloignées de la politique, qui viennent se frotter parfois pour la première fois de leur vie à la politique en regardant Backseat. Merci pour l'émission de jeudi, elle était intéressante pour voir LR se rapprocher du RN. Je me demandais si on pouvait envoyer des questions pour chaque émission ou pas. Si oui, peux-tu rappeler le contact et les consignes? Peut-on également envoyer simplement des vocaux ou pas forcément des vidéos? Non, c'est au format vidéo, merci pour ton commentaire. C'est au format vidéo qu'il faut envoyer ces questions. Et c'est backseatrs@gmail.com, mais ça dépend des invités de la semaine. Je comprends pas pourquoi faire une émission sur Twitch pour redonner encore la parole à LR, à d'autres à qui la TV tend le micro tout le temps d'ailleurs. J'en sais rien, moi je regarde pas la télé, ça m'intéresse pas. Je me compare pas à la télé, c'est pas. Je joue pas au même jeu qu'eux. Je suis de loin la politique grâce à toi et c'est pas pour autant que je vais aller sur X pour dire ou faire quoi que ce soit, je prends les infos. Oui, voilà, c'est ça. Bah toi tu représentes bien le public de Backseat. Je me demandais s'il y avait des questions ou des vidéos posées par des femmes. Cette semaine, on a eu une question posée par une femme trans, oui. Ça ressemble de plus en plus à la télé Backseat, c'est dommage. C'est-à-dire. Encore une fois, moi je regarde pas la télé, donc je ne sais pas à quoi ça ressemble à la télé. On sait que tu es fan des anges de la télé-réalité à Dubaï. C'est filmé, il y a des gens qui parlent. Ah ouais, ça effectivement. Le format 16/9 aussi, c'est vrai. Tu penses vraiment que c'est pas un public engagé justement? Non. C'est l'impression que j'avais, mais j'avoue que je regarde Backseat de temps en temps. Mon truc, c'est plutôt les questions au gouvernement. Encore une fois, les personnes, vous savez, les personnes qui s'expriment dans un chat, c'est une infime minorité du public. Là, vous êtes plus de 1000 personnes à regarder mon stream. Les gens qui sont en train de parler dans le chat, vous êtes quoi, 200, 300 à tout casser? L'écrasante majorité du public ne s'exprime pas. Pas plus sur Twitter que sur le chat ou ailleurs. Je 10%, je crois. Ouais, la règle, c'est 10%. La règle, c'est à peu près 10%. Vous avez déjà débriefé Backseat avec Olivier Marleix. Non, non, on est en train de le faire. Après, j'ai des articles à lire. Hein. On fait une petite revue d'actualité aujourd'hui. Quelques articles, notamment parce qu'il y a eu les rencontres de Saint-Denis vendredi dernier, juste après Backseat. Justement, Macron, il voulait regarder Backseat avant de faire les rencontres de Saint-Denis. Il a bien raison. Je me dis que la vidéo, ça peut être un frein pour les femmes pour poser des questions. Je suis d'accord avec toi. Oui, je suis d'accord avec toi. Merci Vegeta pour ton resub. Hop là. Merci Willy également, merci Mang, merci Karzak, merci Katchibre, merci Le Vidratin, merci Artus, merci Verkir, merci Jimmy. Merci à vous. Question qui n'a rien à voir. Si une personne est condamnée pour des propos jugés antisémites, est-ce que c'est suffisant pour dire qu'elle est antisémite ou pas? Que dit le droit? Bah, le droit, elle dit que tu peux te prévaloir d'une décision de justice pour affirmer qu'une personne est antisémite, ouais. Si cette personne venait à porter plainte contre toi pour injure ou diffamation, tu pourrais te prévaloir de sa condamnation. Il y a aussi le frein de la légitimité. Ma copine bosse dans les collectivités territoriales, elle a fait des études de sciences politiques, mais considère que ces questions seront trop techniques et pas intéressantes. Ça dépend de l'invité, ça dépend de la question, on peut pas préjuger, j'en sais rien. Merci Hugo pour ton raid. Merci à toi. Bienvenue les viewers d'Hugo, j'espère que vous allez bien. Ah regarde, regardez, 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 regardez qui est en train de passer derrière moi. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Mais c'est incroyable! C'est la première fois de l'histoire! C'est incroyable! C'est trop bien! Elle est dans sa litière là, elle est en train de me regarder, elle est dans sa litière. C'est la première fois que ça arrive. C'est un chat qui n'est jamais sorti en pleine journée de sa cachette. Là, on est en pleine journée, il est 16h42, je suis en train de streamer, donc je suis en train de parler. Elle est sortie de la chambre, elle est passée derrière moi. Plus pourquoi elle passe derrière moi? Elle pourrait passer là le long du mur. Regardez, elle va repasser. Incroyable! Mon petit chat! Et bon, elle est rentrée dans la chambre. C'est trop bien. En mode furtif. C'est trop chou. C'est un fond vert. Non, c'est pas un fond vert. Et ben voilà, vous venez de voir Zara. J'ai le plaisir de vous présenter Zara. C'est un jour historique. Zara est enfin passée en stream. C'est incroyable que ça arrive pendant un stream. Hein. Parce que je vous disais tout à l'heure, j'étais là au bureau en train de bosser. Jamais elle est passée derrière moi comme ça. Hein. Reste calme comme si de rien n'était. Ah oui, non, non, moi je reste calme, je continue à parler. Il n'y a pas de particularité. Il ne s'est rien passé, je n'ai rien vu. Faut la renommer Zarator, vu que maintenant elle est sur Twitch. Ah mon dieu, je viens d'arriver sur le stream juste au moment du miracle. Ah bah tu l'as vu en direct, hein. Tu peux le refaire, s'il te plaît? Zara? Incroyable. C'était trop mignon. L'autre truc, c'est que j'ai demandé à mon médecin de l'aide pour arrêter de fumer. Et du coup, il m'a prescrit la totale. Donc j'ai des petits inhalateurs comme ça, de nicotine, j'ai des patchs, j'ai des gommes, j'ai des trucs comme ça. Est-ce que tu veux que je te re-raid? Visiblement c'est ça qui l'a fait sortir. Ouais, visiblement c'est ton raid qui l'a fait sortir. Incroyable. Donc ça c'est de la vaporisation de nicotine apparemment. Bon, je sais pas encore, je pense que je vais commencer par réduire le tabac avant d'arrêter complètement, mais j'aimerais bien réussir un jour à arrêter de fumer. Je suis sous nicotinelle depuis 4 ans et pas une clope depuis. Eh ben félicitations. Félicitations. On dirait un peu un tampon, c'est vrai. C'est même pas bon, hein. Est-ce que t'es quelqu'un de nerveux? Ouais, alors en plus, j'ai de l'anxiété, j'ai une santé mentale qui est quand même assez fragile. J'ai un peu peur de l'arrêt de la clope. Qu'est-ce qui t'a motivé à arrêter? C'est juste que j'en ai ras-le-bol, hein. Merci la cantine pour ton raid. Bonjour à tes viewers, bienvenue à vous. Bienvenue, bienvenue. On va faire une petite revue d'actu politique. On a quelques articles que j'ai sélectionnés pour se remettre dans le bain de l'actualité politique. Donc, on est lundi, il est 16h45. C'est le moment, hop là, de se remettre un petit peu dans l'actu. Et justement, il y a un article du Monde qui récapitule les échanges qu'il y a eu au moment des rencontres de Saint-Denis. Alors, les rencontres de Saint-Denis, c'était l'invention d'Emmanuel Macron en août dernier. Il a réuni à Saint-Denis, à Paris, les chefs de partis politiques pour avoir une discussion. Pour avoir une discussion sur les grands sujets du moment. On va lire l'article pour savoir ce qui s'est dit pendant cette réunion. Donc c'était vendredi dernier à Saint-Denis et tous les chefs de parti n'étaient pas là parce qu'à la différence d'août dernier, il y en a certains qui ont refusé de jouer le jeu des rencontres de Saint-Denis. Attendez, je vais virer ça. Hop là, voilà, beaucoup mieux. Voilà. Alors, Emmanuel Macron renonce au référendum sur l'immigration faute de majorité nécessaire, entre guillemets. Le président de la République et les chefs de parti réunis vendredi à Saint-Denis ont conclu à l'impossibilité de réformer la Constitution en vue de consulter les Français sur des questions de société. Je vais vous expliquer. Faute de consensus et en l'absence du parti Les Républicains, les rencontres de Saint-Denis ont tué dans l'œuf, vendredi 17 novembre, toute perspective de référendum sur l'immigration. Une forme d'unité nationale, selon la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier, s'est constituée pour en rejeter l'idée. Autour de la table où étaient réunis le président de la République, Emmanuel Macron, la première ministre, Elisabeth Borne, les trois présidents de l'Assemblée, les trois présidents d'Assemblée, Assemblée nationale, Sénat et Conseil économique, social et environnemental, tac, 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 tac. Huit chefs de parti. On était nombreux pour dire que c'était compliqué ou dangereux, a relaté le secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel. On va gagner du temps, avait souri François Bayrou, le président du MoDem, calculant que cette proposition avait du coup peu de chances de prospérer. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, se décrivait à la sortie comme le seul porte-parole de ceux qui veulent maîtriser l'immigration. Dans le huis clos de la maison d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis donc, le chef de l'État a rappelé que les propositions de référendum formulées ces dernières semaines, que ce soit sur la fin de vie ou sur l'immigration, passent par une extension du champ de l'article 11 de la Constitution aux questions de société. Pour cela, l'Assemblée nationale et le Sénat doivent adopter un projet de loi constitutionnelle dans les mêmes termes, qui doit ensuite être avalisé par une majorité de 3/5 du Congrès. Un double verrou difficile à faire sauter au vu de l'état de force en présence à Saint-Denis. Alors, on va retourner voir la Constitution, on va voir ce que c'est que cet article 11, vous allez voir. Hop. L'article 11. Le président de la République, pendant la durée des sessions, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Le champ, l'article 11, donc la possibilité de faire des référendums, est limité aux lois qui porte sur les réformes, sur la politique économique, sociale ou environnementale, sur les services publics ou sur la ratification d'un traité. Ce sont les trois seuls domaines dans lesquels on peut faire un référendum pour faire adopter une loi. L'idée d'Emmanuel Macron, et d'ailleurs qui est demandée par le Rassemblement national et par les Républicains, c'est d'élargir le champ du référendum en rajoutant une phrase là, quelque part, qui ouvre la voie référendaire vers les sujets de société. Et c'est cette idée-là qui n'aura pas de majorité, puisque comme le rappelle le journal Le Monde, il faut pour cela, donc pour changer la Constitution à l'article 11 pour pouvoir faire des référendums sur des questions de société, il faut que l'Assemblée et le Sénat adoptent un projet de loi constitutionnelle dans les mêmes termes. Donc l'Assemblée nationale ne peut pas avoir le dernier mot sur le Sénat. Et ensuite, il faut qu'il y ait une majorité des 3/5 du Congrès. 3/5 du Congrès, ça veut dire Assemblée nationale plus Sénat. Si vous regardez l'équilibre des forces aujourd'hui à l'Assemblée nationale et au Sénat, vous constatez qu'il n'y a pas de majorité de 3/5 pour faire adopter cette réforme de la Constitution. Voilà pourquoi Emmanuel Macron ne veut pas aller jusque-là. Il le sait. Il l'a constaté et donc ça n'aura pas lieu. La présidente Renaissance de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, le secrétaire général du parti macroniste Stéphane Séjourné, François Bayrou et Jordan Bardella se sont dit favorables à élargir le champ de l'article 11 aux questions de société, précise l'Élysée. Ah, donc on a quand même la confirmation que Braun-Pivet, Stéphane Séjourné, François Bayrou et Jordan Bardella sont d'accord. En revanche, ni le président LR du Sénat, Gérard Larcher, ni celui du Conseil économique, social et environnemental, Thierry Baudet, ni l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, ni le patron de l'Union des démocrates et indépendants, Hervé Marseille, ni les trois partis de gauche présents n'ont voulu suivre Emmanuel Macron dans son projet de modifier l'article 11 de la Constitution, endossé après la proposition de la droite LR. Ça veut dire que même Gérard Larcher, qui est pourtant issu de LR, n'est pas d'accord pour élargir le champ du référendum de l'article 11. Fabien Roussel a estimé compliqué d'élargir la possibilité de tenir des référendums sur des sujets sociétaux tels que l'immigration, tant ils sont larges et clivants. Devant les 11 participants sur 14 invités, Emmanuel Macron a donc pris acte que la majorité nécessaire pour garantir l'adoption du projet de loi constitutionnelle ne peut être assurée, a fait savoir l'Élysée à l'issue de la rencontre. Le centriste Hervé Marseille voit dans cet enterrement Le coup de pied de l'âne du chef de l'État au président de LR, Éric Ciotti, qui n'était même pas là pour défendre ce qu'il réclame. En ouvrant la journée, Emmanuel Macron avait commencé par remercier ceux qui ont accepté de continuer à dépasser les clivages et ont pris leurs responsabilités dans un moment qui nécessite l'unité de la nation. Un conflit, une façon de pointer du doigt les absents qui avaient choisi de boycotter la réunion. Manuel Bompard pour la France Insoumise, Olivier Faure pour le Parti Socialiste et Éric Ciotti pour les Républicains donc. Si ce dernier s'est privé d'une occasion de faire avancer sa cause, le premier secrétaire du PS, qui est opposé au référendum sur l'immigration, s'est pour sa part empêché d'enregistrer une victoire. Les absents ont toujours tort, philosophe le questeur Renaissance de l'Assemblée nationale Éric Woerth. C'est une règle d'or de la vie politique, quand vous n'êtes pas là, les décisions se prennent sans vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là, qu'il faut être présent aux réunions pour que les décisions se prennent? Récemment chargé par Emmanuel Macron d'une mission sur la décentralisation, Éric Woerth donc était reçu en début d'après-midi par les participants aux rencontres. Alors que les départements se sentent menacés et que certains chefs de parti appréhendent un nouveau Big Bang territorial selon les mots de Gérard Larcher, le député de l'Oise est venu leur dire qu'il n'aurait pas comme conclusion de supprimer une strate de l'organisation territoriale. Les 11 participants doivent se voir dans 3 mois autour de M. Woerth pour faire le point sur la décentralisation. On va pas aller jusqu'au bout de l'article parce que ce qui m'intéressait c'était surtout cette partie sur le référendum. Donc c'est sûr, c'est enterré, il n'y aura pas de référendum sur l'immigration, contrairement à ce que demandaient les Républicains. Donc les Républicains enregistrent une défaite et en même temps affichent une division avec Gérard Larcher visiblement, et Emmanuel Macron lui aussi semble-t-il essuie une défaite, puisque les partisans d'Emmanuel Macron étaient favorables à un référendum sur l'immigration. Mais il n'y aura pas de majorité des 3/5 au Congrès pour modifier la Constitution et son article 11. Est-ce que c'est le point final de cette proposition? Pas sûr, parce que ça n'empêchera pas les autres membres... ça n'empêchera pas, par exemple, des candidats à la présidentielle de proposer ça. Gérard Larcher sur Brexit. Écoute, à l'occasion, ouais, mais il faudrait voir quelle actualité justifie le fait de l'inviter, mais pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est un sujet clivant, l'immigration. Hein. C'est-à-dire que quand vous faites une campagne référendaire, il y a un temps de parole égal qui est donné au camp du oui et au camp du non. Les réunions ne servent bien souvent qu'à informer des décisions qui sont déjà prises. Là, en l'occurrence, ils ont constaté que la décision était prise, oui. J'imagine mal Larcher venir à Baxit. Ouais, moi aussi, j'ai du mal à imaginer Gérard Larcher dans Baxit. Faudrait trouver une justification, faudrait trouver un truc. De toute façon, les référendums, on leur fait dire ce qu'on veut. Si c'est pour faire croire que tout le monde est raciste, c'est pas la peine. Non, on leur fait pas dire ce qu'on veut, les référendums. Il y a quand même une réponse à la fin. Enfin, c'est quand même c'est une prise de décision, un référendum. C'est pas consultatif. Par contre, on pourrait imaginer des référendums consultatifs. Ça paraît difficile à imaginer. Enfin, moi, de toute façon, je suis favorable à ce qu'on élargisse le champ de la participation citoyenne. Donc, moi, elle me fait peur, cette idée de référendum sur l'immigration. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, je suis pas favorable. Enfin, je suis pas favorable. C'est pas à moi de dire si je suis favorable ou pas. Mais un référendum sur l'immigration, ça veut dire. Mais ça veut dire. En plus, ça veut dire quoi? C'est quoi la question qu'on poserait? C'est quoi? Oui ou non, pour ou contre? Mais pour ou contre quoi? C'est sur les conditions d'accès à la nationalité, c'est sur, je sais pas, l'accueil des migrants. A été consultatif quand même. Ah mais non, mais ça on en a déjà parlé, après 2005 il y a 2007. Ça le problème c'est qu'on peut pas, retirer l'un des deux votes sans l'autre. Un référendum serait forcément sur un projet de loi. Bah oui, justement. Oui, c'est ça, un référendum article 11, ça porte forcément sur un projet de loi qui a été adopté par le Parlement, donc a priori sur des trucs qui sont plutôt consensuels. Référendum sur l'immigration, ça veut rien dire. Ouais, non, mais c'est ça, c'est pour ça. C'est que je sais pas ce que ça veut dire, référendum sur l'immigration. C'est quoi la question? C'est une pratique bonapartiste et gaulliste historiquement. Pas bonapartiste, non, Napoléon Bonaparte n'a jamais fait de référendum, mais gaulliste, oui, clairement. Il faudrait obligatoirement avoir plusieurs questions dans le référendum, sinon ça n'a aucun sens. Bah, sur un référendum consultatif, oui, mais sur un référendum article 11, ça peut pas juste être une question à choix multiples, c'est forcément est-ce que vous êtes pour ou contre le projet de loi? Ceux qui ont peur sont ceux qui savent que l'opinion publique a un avis désastreux sur l'immigration et que si référendum il y a, forcément l'opinion majoritaire actuellement serait pour un renforcement des frontières. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, on avait lu la semaine dernière dans la revue d'actu, on avait lu un article qui montrait que les Français se déclaraient effectivement plutôt favorables à un durcissement des conditions d'accès à la nationalité, mais surtout que les Français se déclaraient dans une enquête d'opinion mal informés sur la question migratoire. Les Français estiment qu'ils n'ont pas assez d'informations, qu'ils ne savent pas comment ça marche. Et c'est vrai, au demeurant, qui est capable de dire quelles sont précisément les règles d'accession à la nationalité française? Blague à part, quand on voit l'état du débat politique et des idées nauséabondes qui circulent, je trouve la position de Macron qui ne veut pas donner 50% de temps de parole à n'importe quoi plutôt raisonnable. Ouais. Tu réponds au sondage de l'appli Agora? Non. De mémoire, l'article indiquait aussi que quand on rentre dans le détail, les opinions sont nettement plus nuancées. Oui, il y a une courte majorité de Français qui est favorable à un durcissement des conditions d'accès à la nationalité, une facilitation de l'expulsion des immigrés délinquants, etc., ce genre de trucs. Mais c'est à chaque fois une courte majorité, c'est vrai. C'est vrai. Donc bref, le pays est divisé et faire un référendum sur l'immigration ne va pas aller dans le sens de l'unité nationale, loin de là. Très très loin de là. Il y a un autre article qui est cette fois-ci de Libé sur le même sujet. On va voir comment est-ce que Libé traite la même information par rapport au journal Le Monde. Constitution, désaccord à Saint-Denis entre Macron et les oppositions présentes. Le chef de l'État a invité à nouveau les partis de l'opposition à des échanges directs, cette fois-ci sans le PS ni les Républicains. Au menu, une future réforme constitutionnelle, mais aucune majorité ne s'est dégagée pour s'y engager. 10 heures et des brouettes de discussion et un enterrement, vendredi à l'issue d'une nouvelle édition de l'exercice macronien d'échange direct avec les oppositions, du moins une petite moitié, LR, LFI et le PS ayant décidé de bouder la réunion, aucune majorité ne s'est dégagée pour s'engager dans la voie d'un référendum de la Constitution. C'était pourtant la principale ouverture qu'avait esquissée le chef de l'État après le premier exercice du genre le 30 août dernier. Au menu de ce troisième round à Saint-Denis, les chefs de parti avaient été conviés à l'Élysée le 12 octobre pour évoquer la situation en Israël. L'élargissement de l'article 11 de la Constitution à des sujets de société comme l'immigration ou la fin de vie a pourtant été évoqué en longueur, avant de buter sur l'absence d'une majorité pour le modifier. Il n'y aura pas de référendum sur l'immigration, s'est réjouie Marine Tondelier. Un consensus s'est dégagé autour de la table sur le fait qu'il paraissait compliqué d'élargir la possibilité de tenir des référendums sur des sujets sociétaux tels que l'immigration, tellement les sujets sont larges, clivants, a complété Fabien Roussel, le secrétaire national du PCF. Le président de la République a acté le fait qu'il n'y a pas de majorité qui s'est exprimée, abonde Guillaume Lacroix, patron du Parti radical de gauche, le PRG. En plein examen de loi immigration au Parlement, le sujet est sensible pour l'exécutif. Le Rassemblement national et les Républicains n'ont de cesse de réclamer cette révision constitutionnelle, seul moyen à leurs yeux de reprendre le contrôle du chaos migratoire. Le patron des Républicains, Éric Ciotti, qui a séché le rendez-vous, en fait même une condition de son soutien au projet de loi de Gérald Darmanin. À la sortie des échanges, Jordan Bardella, le patron du RN, s'est consolé, lui, avec ses piques décochées à l'endroit de la droite. Les Républicains ne sont plus un parti de gouvernement, a-t-il paradé. Éric Ciotti n'était pas là pour représenter ses électeurs. Drapé des habits de seul porte-parole de la France qui veut maîtriser l'immigration, Bardella a acté l'absence de majorité pour une telle révision de la Constitution et a appelé à faire des européennes en juin prochain un référendum sur le sujet. Dans un communiqué, Ciotti a pesté de son côté contre le renoncement de Macron à l'idée d'un référendum sur l'immigration, tout ça pour ça. Plutôt, le député des Alpes-Maritimes avait ruminé au détour d'une lettre ouverte contre une nouvelle séquence de narration qui n'aboutira à rien, et dont il refuse d'être la caution. Le chef de la droite renvoie désormais à l'examen une proposition de loi constitutionnelle LR le 7 décembre à l'Assemblée. Depuis la Suisse, mercredi, le président avait pointé de son côté la faute politique majeure des chefs de parti absents. Parmi eux, Éric Ciotti, donc, Olivier Faure pour le Parti Socialiste, Manuel Bompard pour la France Insoumise. Rejetant le carton d'invitation, Faure avait critiqué, avant la rencontre, une mise en scène. On est convoqué à Saint-Denis par le roi de France, à la basilique des rois de France. C'est ahurissant en termes démocratiques, s'insurge également Arthur Delaporte, député PS du Calvados. De son côté, LFI a tiré à vue sur un exercice monarchique. Emmanuel Macron a, lui, abreuvé toute la matinée son auditoire d'informations sur la situation au Proche-Orient, sur la guerre en Ukraine et sur le conflit au Haut-Karabakh, opposant l'Arménie et l'Azerbaïdjan. À huis clos, le chef de l'État a abordé la situation de 8 otages français toujours retenus par le Hamas. Cela a permis au président de la République de redire sa position concernant la question humanitaire en Palestine. C'est vrai qu'il y a un côté monarchique, juste au fait que le président de la République parle d'informations géopolitiques pour lesquelles il a des informations en sa qualité de président de la République aux responsables des partis d'opposition. C'est effectivement très, très très monarchique. Marine Tondelier a plaidé pour l'intervention d'enquêteurs de la Cour pénale internationale. On estime que c'est aujourd'hui la seule solution pour pouvoir enquêter de manière impartiale, neutre, indépendante, légitime sur des questions qui sont en cours, sur des crimes qui sont en cours, possiblement des crimes contre l'humanité, a-t-elle fait valoir. Avant de pouvoir se restaurer vers 14h30, l'auditoire a dû avaler une bonne tartine de décentralisation à la mi-journée. Invité pour l'occasion, le député Renaissance Éric Woerth est venu présenter la feuille de route de sa mission visant à réformer l'enchevêtrement de collectivités locales et de compétences illisibles pour les Français. J'espère ne pas être trop naïf quand je note pas mal de points de convergence. Personne n'est vraiment satisfait et en même temps réformer fait peur, s'est réjoui Woerth en quittant Saint-Denis en quittant Saint-Denis, pardon. Selon l'ancien ministre, tout le monde est assez d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup de complexité et d'illisibilité pour faire sur qui fait quoi. Les problèmes s'accumulent comme la complexité normative. Le député en a profité pour assurer que la strate des départements ne serait pas supprimée comme le craignaient certains élus locaux. Il y avait des malentendus à lever, selon lui, c'est au moins ça. Donc voilà pour ce deuxième article, cette fois-ci de Libération, toujours sur le sujet de ces rencontres de Saint-Denis. Il est bizarre cet exercice de Saint-Denis. Hein. C'est quand même un truc assez particulier. Ça a été inventé assez récemment, hein, pour le coup, ça date de juin dernier, la première itération de cet exercice. Je ne comprends pas Éric Ciotti. En ne venant pas, il enterre le projet et en portant dans une proposition de loi, il pense qu'elle passera et sera portée par les autres partis. Oui. Et en même temps, est-ce qu'il a tort, compte tenu du fait que Stéphane Séjourné, Yaël Braun-Pivet ont dit qu'ils étaient d'accord? Techniquement, si les Républicains proposent une proposition de loi référendaire qui est adoptée par les députés de La République En Marche, Renaissance, pardon, et bien techniquement, la loi, elle peut être adoptée. Donc, à mon avis, Éric Ciotti, il fait ça précisément pour mettre la majorité au pied du mur et les forcer à s'exprimer sur un sujet sur lequel peut-être qu'ils auraient préféré ne pas avoir à s'exprimer. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée pour le coup, les rencontres, mais pour l'instant, ça n'a pas abouti à beaucoup de décisions. Est-ce que c'est une bonne idée, selon vous, pour le président de la République, de réunir les chefs de partis politiques du pays? Est-ce que en soi, c'est une mauvaise idée? Moi, je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée en soi. Je pense que contextuellement, c'est une mauvaise idée. Parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Et que ça donne l'impression de faire une diplomatie à deux vitesses. C'est pas une diplomatie pour le coup, mais un travail politique à deux vitesses, quoi. C'est-à-dire que maintenant, il y a les rencontres de Saint-Denis, il y a le Parlement qui se font concurrence l'un à l'autre. Du coup, les rencontres de Saint-Denis enterrent le projet de loi référendaire. Je sais pas. C'est pas son rôle, il y a un gouvernement. C'est pas le rôle du gouvernement de réunir les chefs de partis politiques non plus, hein. C'est une bonne idée de ne pas y aller en tout cas. En soi, mais ça vient à se substituer à l'Assemblée nationale. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est pas un travail de substitution à l'Assemblée nationale, puisque ils abordent des sujets, ils en parlent, ça reste entre eux. C'est la première fois qu'un président fait ça. Ouais, c'est la première fois qu'un président de la République organise ça, ouais. C'est la première fois que ça a lieu. D'habitude, il y a des consultations des chefs de partis politiques à l'Assemblée nationale, mais ils viennent pas tous ensemble, c'est les uns après les autres. Il y a une assemblée, un sénat, des élus locaux, etc. Et qu'à chaque réunion autre, il en fait juste un coup de com', CF, le grand débat avec les élus, les conventions citoyennes, etc. Bah après, la Convention citoyenne pour le climat, elle avait abreuvé la loi climat résilience. Le grand débat national l'avait débouché sur bah, la Convention citoyenne. Après, il y avait déjà eu des mesures sociales qui avaient été décidées au moment du mouvement du gilet jaune, des gilets jaunes, mais ça, c'était avant le grand débat national. Je pense que Macron a identifié un problème de discussion entre les partis et le gouvernement. Il essaye donc de faire croire que les choses avancent pour mieux faire avancer l'Assemblée nationale et le Sénat, sauf que. Bah, la preuve que ça marche pas, parce que l'une des difficultés pour Emmanuel Macron dans ce genre d'exercice, c'est qu'il s'enferme lui-même dans un espèce de dialogue. Enfin. Ouais, dans un espèce de dialogue avec les partis d'opposition, sauf que du coup. La réussite de son initiative dépend de l'acceptation par les opposants de jouer le jeu. Sauf que quand les opposants refusent de jouer le jeu, la preuve, bah du coup ça marche plus. Il suffit que les invités refusent d'accepter de venir à la soirée pour qu'il n'y ait pas d'ambiance à la soirée. En gros. De toute façon, c'est pas le président qui décide, c'est les grandes entreprises qui décident de ce qui est bon pour ou pas pour elles. D'accord, mais du coup, les grandes entreprises, elles en pensent quoi de la fin de vie? Et de la décentralisation. Parce que du coup, bon, il y a Eric Woerth qui est venu faire son exposé sur la décentralisation. Mais du coup, ouais, tiens, d'ailleurs, je sais pas où est-ce qu'il va atterrir Eric Woerth avec son projet de loi, avec son projet sur la décentralisation. C'est un outil pour décrédibiliser les autres partis. Bah non, parce que les partis, la crédibilité des partis dépend de leur acceptation de venir ou pas. C'est pas Emmanuel Macron qui les force à pas venir. C'est eux qui ont décidé de pas venir. Tu as différentes manières de jouer le jeu, genre Tondelier qui met la question climatique sur la table en participant, oui. Oui, en l'occurrence, Marine Tondelier d'Europe Écologie Les Verts, elle a accepté de participer à l'exercice en disant que si les écolos sont pas autour de la table, personne ne parle de climat. C'est un peu une prise d'otage. Ouais, c'est ça. C'est si tu viens, tu participes au caractère monarchique du pouvoir. Si tu ne viens pas, tu t'empêches de faire avancer ton agenda. J'ai pas l'impression qu'ils aient parlé de climat. En tout cas, dans les deux articles qu'on vient de lire, non, ils parlent pas de climat. Il n'y a pas Marine Tondelier. De toute façon, il n'y a aucune. Citation de Marine Tondelier. Hein, La crédibilité dépend de ce que tout un chacun accorde à l'autre. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Après, je m'interroge sur l'opinion publique, tu vois. Est-ce que l'opinion publique, elle en a quoi que ce soit à foutre? Je suis pas sûr que l'opinion publique elle soit contente que les chefs de parti n'aillent pas à une réunion à laquelle ils sont invités. Juste une mention de te délier pour dire qu'il faut que des enquêteurs de la Cour pénale internationale à Gaza. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, t'as raison. Effectivement. Ça manque d'un Antoine Bristiel pour faire un point opinion. C'est vrai, il est où Antoine Bristiel quand on a besoin de lui? Tiens d'ailleurs, hop, il y a un éditorial du Monde que je voulais vous proposer de lire sur la démocratie justement. Hop, le chantier démocratique à l'épreuve des petits calculs. Plus les discussions entre partis s'approfondissent, moins le recours accru au référendum s'impose comme une solution évidente à la crise démocratique. En témoignent les rencontres de Saint-Denis qui se sont achevées vendredi. Donc c'est un édito, hein, c'est pas un article, c'est un édito du journal Le Monde. Destinées à créer du consensus autour du chantier de la rénovation démocratique, les rencontres de Saint-Denis ont pris, vendredi 17 novembre, une tournure nettement politicienne. Trois chefs de parti qui avaient participé à la première séance le 30 août ont décidé de boycotter la deuxième. Ils ont essuyé en retour les foudres du chef de l'État qui a fait durer 9 heures les discussions avec ceux qui avaient au contraire choisi de rester autour de la table, soit les présidents de deux assemblées et les chefs des autres partis. Qu'il y ait des torts partagés dans ce brusque accès de tension ne fait guère de doute. LFI s'est appuyé sur l'usage répété du 49-3 sur les textes budgétaires pour dénoncer une mascarade démocratique. Le PS a invoqué sa crainte légitime de se retrouver otage d'un rapprochement entre le chef de l'État et la droite à propos de l'élargissement du champ du référendum. En pleine discussion du projet de loi sur l'immigration, LR exige en effet, comme le Rassemblement national, un référendum sur l'immigration, ce qui suppose au préalable de modifier le champ de l'article 11 pour l'étendre au sujet de société. Emmanuel Macron s'étant montré favorable à cette dernière hypothèse, le doute était permis. Moins compréhensible est l'attitude d'Éric Ciotti, le patron de LR, qui, plutôt que de chercher à pousser son avantage, a préféré claquer la porte au motif que les partis seraient marginalisés par le format inédit de ces rencontres de Saint-Denis. La mauvaise foi a des limites, le président de LR est en réalité soumis à la pression des faucons de son parti, qui ne veulent rien devoir au chef de l'État, ni négocier avec lui. Cette fronde n'entrave pas complètement Emmanuel Macron, qui s'était fait élire en 2017 sur la promesse déçue d'une rénovation démocratique et entend, avant de lâcher les rênes en 2027, mettre chacun devant ses responsabilités. Un sujet à avancer, l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, qui devrait faire l'objet d'un congrès en mars. D'autres chantiers sont ouverts concernant la Corse et la Nouvelle-Calédonie, mais la question la plus lourde a trait au référendum. Depuis 6 ans, la banalisation de son usage a été réclamée sur à peu près tous les bancs de l'opposition, mais pas pour les mêmes motifs, ni sur les mêmes thématiques. La revendication a surgi à l'occasion de la crise des Gilets jaunes, du mouvement de protestation généré par la réforme des retraites ou des débats sur l'immigration. L'évolution met en jeu l'équilibre entre la démocratie représentative et la démocratie directe, le pouvoir des élus et celui du peuple. Elle mérite d'être sérieusement évaluée. Le chef de l'État y était favorable. Les discussions de vendredi ont fait apparaître qu'il n'y avait guère de consensus entre les partis autour de l'idée d'élargir le référendum au sujet de société. En conséquence, il n'y en aura pas sur l'immigration. Les participants ne se sont pas non plus entendus sur l'abaissement des seuils permettant de déclencher un référendum d'initiative partagée. À ce stade, seule l'évolution du scrutin législatif vers un système proportionnel a recueilli une majorité d'avis favorables. Ah ok, la proportionnelle, ok d'accord. Au regard de l'ampleur de la crise démocratique, ces résultats peuvent apparaître décevants. Aussi timide soit-il, un progrès cependant a été réalisé. Une majorité de partis ont accepté de débattre ensemble de sujets difficiles en s'exonérant du jeu facile qui consiste à avancer des revendications fortes puis à accuser l'autre de tout bloquer. De ce point de vue, les absents ont mal joué, ils ont donné le sentiment de se défausser. Voilà donc cet éditorial du Monde qui accuse, pour le coup, les absents de ne pas avoir participé à une discussion, alors que c'est ça la base de la démocratie. Déjà, une forme de consensus sur le proportionnel, c'est positif. Ouais, alors pour le coup, c'est pas étonnant qu'il y ait un consensus sur la proportionnelle, puisque le principal argument contre la proportionnelle, c'était l'argument des gaullistes de dire que la proportionnelle, ça crée des majorités relatives ou des majorités de coalition. L'accusation qui était faite à la 4ème République. Sauf que là, on a vu en 2022 qu'en réalité, on peut tout à fait avoir un scrutin majoritaire, donc non proportionnel, qui donne un résultat avec une majorité relative. C'est exactement le cas d'Elisabeth Borne, qui n'a pas de majorité absolue. L'argument, c'était aussi pour limiter le nombre de députés FN. Ouais, ça, c'était le scrutin majoritaire dans les circonscriptions, ouais. Effectivement, limiter le nombre de députés du Front National. C'est quoi la différence entre un édito et un article? Un édito, c'est une prise de position sur un sujet national. Un édito, c'est la rédaction du journal Le Monde qui, collectivement, exprime une position politique ou une position sur l'actu. Limiter le nombre de députés du deuxième parti de France, pas mal la démocratie. Alors à l'époque, dans les années 60-70, c'était pas le deuxième parti de France, le Front National. C'est pas signé au Monde d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, l'éditorial au Monde n'est pas signé, ouais. à la différence d'autres journaux. Ça ne concerne pas le référendum, mais je voulais savoir comment le gouvernement fait pour dissoudre une association comme Civitas récemment. La dissolution d'une association, loi 1901, c'est une décision, c'est un décret qui est pris en Conseil des ministres. Ensuite, une fois que la décision est prise par le gouvernement, l'association qui est dissoute peut porter devant la justice une réclamation en disant je ne suis pas d'accord avec cette dissolution et voici mes arguments. C'est exactement ce qui s'est passé pour les soulèvements de la Terre, par exemple, dont la dissolution a été prononcée. Ils sont allés en justice et le Conseil d'État, donc qui est la Cour suprême de l'ordre administratif, a cassé la décision de dissolution. C'est pour ça que le gouvernement hésite parfois à dissoudre une association parce qu'il a besoin d'avoir des arguments juridiques très solides pour obtenir la dissolution. Donc voilà. Un article sur le rapport d'Oxfam. Oxfam a sorti son rapport sur les inégalités. Hop. Selon Oxfam, les 1% des plus riches du monde émettent autant de CO2 que les deux tiers des plus pauvres. 1% des plus riches polluent autant que 66% des plus pauvres. 77 millions de fortunés émettent autant de gaz à effet de serre que les 5 milliards de personnes les plus pauvres de la planète, dénonce un rapport d'Oxfam publié dimanche 19 novembre. Donc c'était hier. Le poids des plus riches pèse lourd dans la balance du dérèglement climatique. Selon un rapport d'Oxfam publié dimanche 19 novembre, les 1% les plus riches de la planète, soit 77 millions de personnes, émettent autant de gaz à effet de serre que les deux tiers de la population la plus pauvre, soit environ 5 milliards de personnes. L'empreinte carbone de ces très riches s'est ainsi établie en 2019 à 16% des émissions mondiales et a occasionné 1,3 million de décès supplémentaires dus à la chaleur, chiffre le rapport. Si la lutte contre le changement climatique est un défi commun, certains en sont donc plus responsables que d'autres et les politiques gouvernementales doivent être adaptées en conséquence, a exhorté Max Lawson, co-auteur du rapport publié par l'ONG de lutte contre la pauvreté. Plus vous êtes riche, plus il est facile de réduire vos émissions personnelles et celles liées à vos investissements, selon lui. Vous n'avez pas besoin d'une troisième voiture, de quatrième vacances, d'investir dans l'industrie du ciment. Selon Oxfam, les 50% les plus pauvres sont responsables d'à peine 8% des émissions mondiales de CO2. Parmi les autres principales conclusions, le rapport alerte aussi sur le fait que depuis les années 90, les 1% des super riches ont brûlé deux fois plus de budget carbone que la moitié la plus pauvre de l'humanité réunie. Le seuil de revenu annuel pour faire partie des 1% des plus riches a été ajusté par pays. Aux États-Unis, le seuil est à 140 000 dollars, alors qu'il se fixe à environ 40 000 dollars au Kenya. Ces inégalités extrêmes n'épargnent pas la France, selon Oxfam. Si l'on exclut les émissions associées à ces investissements, Bernard Arnault, le PDG français du groupe de luxe LVMH, a une empreinte carbone 1270 fois supérieure à celle d'un Français moyen. En 2019, le Français le plus riche du pays aurait ainsi émis près de 8100 tonnes de CO2 contre 6,4 tonnes pour un Français moyen. Donc le PDG d'LVMH, Bernard Arnault, a émis 8100 tonnes de CO2 contre 6 tonnes pour un Français moyen. Ces émissions de carbone dans l'atmosphère représentent des conséquences dramatiques pour les pays et les communautés les plus pauvres, avec en première ligne les femmes et les enfants, qui sont pourtant les moins responsables de la crise climatique, détaille l'ONG. Dans l'Hexagone, les 1% les plus riches avaient émis autant de carbone en un an que les 50% des plus pauvres en 10 ans. Nous pensons qu'à moins que les gouvernements n'adoptent une politique climatique progressiste, où les personnes qui émettent le plus sont invitées à faire le plus grand sacrifice, nous n'obtiendrons jamais de bonne politique dans ce domaine, a estimé Max Lawson. Cela pourrait consister à la mise en place d'un ISF climatique, à mettre fin aux niches fiscales climaticides comme celle sur le kérosène de l'aérien, ou encore à une taxe sur les dividendes pour les entreprises ne respectant pas l'accord de Paris. Selon Oxfam, ces différentes mesures de fiscalité écologique pourraient engranger 50 milliards d'euros de recettes par an à la France. Intitulée L'égalité climatique 2. Une planète pour les 99%, cette étude, la plus complète jamais réalisée sur l'inégalité climatique mondiale, s'appuie sur des recherches compilées par l'Institut de l'environnement de Stockholm et analyse les émissions liées à la consommation associées à différentes catégories de revenus jusqu'en 2019. Selon elle, l'accroissement des inégalités et le dérèglement climatique se présentent comme deux crises entrelacées, fusionnées et qui s'alimentent mutuellement. Un cercle vicieux qui doit cesser au plus vite. C'est hyper impressionnant, hein? Six tonnes en moyenne, c'est déjà fou. Je me souviens plus, je crois que donc la moyenne des Français, c'est 6 tonnes. Et je crois que l'objectif de l'accord de Paris, c'est de descendre à 2 tonnes d'ici 2050, de mémoire. Comme quoi, le monde féodalisé n'a jamais vraiment cessé d'exister. Ça n'a pas trop de rapport avec la féodalité, là, pour le coup, sur les émissions de gaz à effet de serre. À noter que les 6 tonnes, c'est une moyenne, ça prend en compte le pays entier, donc l'industrie lourde. C'était pas que dans la consommation? Ah oui, d'accord, oui, c'est la moyenne, ouais. Mélenchon, c'est Voldemort ou quoi? Non, Mélenchon, c'est pas Voldemort, pourquoi tu dis ça? Mélenchon, c'est un chef de parti politique qui a fait 22% aux élections. C'est normal qu'on soit en talk show et podcast? Ah non, normalement, on devrait être en discussion. Merci. Déjà rien que de faire fonctionner les institutions, c'est 1,2 tonnes par Français. De quoi? Rien que de faire fonctionner les institutions, c'est 1,2 tonnes par Français? Mais qu'est-ce qu'elles émettent comme CO2, les institutions? C'est le chauffage de l'Assemblée nationale, tu penses? C'est possible. La police, l'armée, l'éducation nationale. Ah oui, non, mais attends, oui, non, ça s'appelle le pays en fait. Oui, c'est ça. Les déplacements en voiture, train, avion. Ah, les institutions, ça consomme que dalle en bagnole, hein. C'est pas franchement ça qui. Ah non, si vous rajoutez, oui, la gendarmerie sur les autoroutes qui roulent en voiture, oui. L'ensemble des services publics, ça fait 2 tonnes. Ah oui, non, c'est ça, oui, d'accord. Les services publics, pas les institutions, les services publics. Ouais, alors après, ouais, je sais pas s'il faut en vouloir au camion de pompiers. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de tirer sur l'ambulance au sens premier du terme, là? Faut doser les priorités. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire bon, il y a des gens qui vont se faire des week-ends de vacances en avion, et il y a des ambulances qui roulent sur nos routes. Entre les deux, je me permettrais de dire qu'il y a plus prioritaire. Les agents de la fonction publique territoriale, c'est super pollueur. Il y en a de moins en moins en plus. Ouais. Non, je sais pas. Je viserai pas directement les services publics comme premier responsable des émissions de gaz à effet de serre. Les pompiers, ils éteignent les feux, ça leur fait pas un bilan carbone négatif. C'est vrai ça, le Canadair. Qui utilisent du kérosène pour voler, mais pour éteindre des incendies. Est-ce que les incendies, ça fait partie de notre bilan carbone? C'est quoi déjà la fonction territoriale, les conseils départementaux, etc. La fonction publique territoriale, ce sont l'ensemble des fonctionnaires qui travaillent au service des communes, des communautés de communes, ce qu'on appelle les EPCI, des conseils départementaux et des conseils régionaux. C'est ça qu'on appelle la territoriale. Les flics roulent beaucoup, mais les criminels ne roulent pas moins. Étrange. C'est pas une question d'en vouloir aux pompiers, aux ambulances, c'est juste factuel. Tout ce fonctionnement émet du CO2 pour arriver aux 2 tonnes. Il y a plein d'autres choses à faire avant, donc oui. D'accord, non, mais oui, non, bien sûr, oui, la réduction de la consommation de la viande, par exemple. Mais oui, non, il ne s'agit pas de dire que les services publics ne font pas partie de l'effort à fournir pour arriver à l'objectif de 2 tonnes. Mais on n'y est pas du tout à l'objectif de 2 tonnes hein, pour l'instant. Les piscines municipales chauffées au fioul, c'est un peu con. Oui, ça, je suis d'accord. Ça, je suis bien d'accord. Est-ce que vous avez déjà parlé du nouveau président argentin? Non, j'ai pas encore parlé de ça. Je vais essayer de cho... Attends, je vais essayer de choper un article. Hop. Hop. Voilà. Élection en Argentine, le candidat d'extrême droite Javier Milei élu président. Je ne sais pas comment ça se prononce. J'ai un très mauvais accent argentin. Javier Milei. Bon, c'est comme ça que je vais prononcer, hein. L'économiste ultralibéral et polémiste qui se présente comme anti-système l'a emporté avec 55,6% des voix selon les premiers résultats partiels, contre 44,3% pour le centriste Sergio Massa qui a reconnu sa défaite. Le candidat d'extrême droite, Javier Milei, a largement remporté dimanche 19 novembre le second tour de l'élection présidentielle en Argentine, au terme d'une campagne tendue et indécise comme rarement en 40 ans de démocratie. Son rival, le centriste Sergio Massa, a reconnu sa défaite. Monsieur Milei assumera la présidence à partir du 10 décembre, succédant au président péroniste, centre-gauche, Alberto Fernandez. Javier Milei a réuni 55,6% des voix contre 44,3% pour Sergio Massa, selon des résultats partiels communiqués par le secrétariat général de la présidence après le décompte de plus de 99% des bulletins. L'ampleur de l'écart surprend. Ces dernières semaines, des sondeurs avaient donné un léger avantage à Milei, mais nombre d'analystes prédisaient un résultat se joint au vote près. Aujourd'hui commence la fin de la décadence et la reconstruction de l'Argentine, a exulté Javier Milei devant plusieurs milliers de ses participants à son QG de campagne, de ses partisans, pardon, à son QG de campagne à Buenos Aires. Javier Milei est le président de la majorité des Argentins. Attends. Javier Milei est le président que la majorité des Argentins a élu pour les 4 prochaines années, avait reconnu avant même l'annonce des résultats officiels, M. Massa, l'actuel ministre de l'économie, qui était arrivé en tête au premier tour le 22 octobre. Il a déclaré avoir appelé Javier Milei pour le féliciter et lui souhaiter bonne chance. Les indécis, environ 10% selon les estimations, détenaient la clé pour départager Massa, qui avait réuni près de 37% des voix au premier tour, et Milei, 30%. Les bureaux de vote ont fermé à 18h, avec un taux de participation de 76%. Quelques 36 millions d'Argentins était appelé à se prononcer concernant deux projets d'avenir totalement opposés. D'un côté, Sergio Massa, 51 ans, depuis 16 mois ministre de l'économie de l'exécutif, d'un exécutif à l'égard duquel il a peu à peu pris ses distances. Cet homme politique expérimenté avait promis un gouvernement d'unité nationale et un redressement économique graduel préservant l'État-providence crucial dans la culture argentine. Face à lui, Javier Milei, 53 ans, économiste d'extrême droite, se présente comme anarcho-capitaliste. Ce polémiste de plateau de télévision a surgi en politique il y a seulement 2 ans. Décidé à débarrasser le pouvoir d'une supposée caste parasite, il se montre résolu à tronçonner l'État ennemi et à dollariser l'économie. Le nouveau président est aussi un climato-sceptique assumé, pour lequel le changement climatique est un cycle, donc une conséquence de l'activité, donc non une conséquence de l'activité humaine. Après l'annonce de sa victoire, il a clamé devant ses partisans: C'en est fini du modèle appauvrissant de la caste. Aujourd'hui, nous adoptons le modèle de la liberté pour redevenir une puissance mondiale. Il a également affirmé que sous sa présidence, il n'y aurait pas de place pour la tiédeur ou les demi-mesures. À son QG de campagne, des milliers de personnes ont chanté et scandé deux des slogans fétiches du candidat: La caste tiene miedo, ça veut dire la caste a peur, et Viva la libertad, carajo. Vive la liberté, bordel. La troisième économie d'Amérique latine traverse une période difficile avec une inflation chronique désormais à 3 chiffres, 143% sur un an. Ils ont 143% d'inflation. 4 Argentins sur 10 sous le seuil de pauvreté, un endettement préoccupant et une monnaie qui dévisse. Les Argentins sont éreintés par des prix qui grimpent de mois en mois, voire de semaine en semaine, quand des salaires ne suivent pas, voire baissent. Le salaire minimum s'élève à 146 000 pesos, ça fait 413 dollars, soit 378 euros. Les loyers sont hors d'atteinte pour beaucoup et nombre de mères de famille recourent au troc, comme après la grande crise, qui si traumatique de 2001. Selon une étude de l'université de Buenos Aires publiée au début de l'année, 68% des jeunes de 18 à 29 ans émigreraient s'ils le pouvaient. Ah oui. Le pays est sous la pression des objectifs de rééquilibrage budgétaire du Fonds monétaire international, auquel l'Argentine rembourse péniblement un prêt colossal de 44 milliards de dollars, octroyé en 2018. Dimanche soir, Javier Milei a redit sa détermination à remettre en ordre les comptes budgétaires, à régler le problème de la Banque centrale, une institution qu'il avait dit vouloir dynamiter. Javier Milei a aimanté un vote bronca, colère, mais sa rhétorique, sa volonté d'assécher la dépense publique dans un pays où 51% des Argentins reçoivent une aide sociale, ou son projet de déréglementer le marché des armes à feu, ont par ailleurs effrayé. Aussi, le candidat anti-système avait-il baissé le ton entre les deux tours, moins d'apparitions, moins tranchées, et un message: votez sans peur, car la peur paralyse et bénéficie au statu quo. Ajoutant à la nervosité ambiante, le camp Milei a distillé ces dernières semaines des accusations de fraude à mots couverts, sans pour autant qu'une plainte soit déposée. Attention aux très mauvais exemples de Donald Trump et de Jair Bolsonaro, qui ont promu de tels messages ou n'ont pas accepté les résultats, avait mis en garde Sergio Massa. Monsieur Milei, accueilli dimanche à son bureau de vote au cri de liberté, liberté, avait assuré que son camp était bien très calme malgré la campagne de peur contre lui. Monsieur Massa, pour sa part, avait appelé les Argentins à voter dans la réflexion, la sérénité, le calme et avec espoir. Ils ont fait un autre choix. Intéressant cet article, dis donc, il m'a l'air absolument délicieux, ce monsieur Milei. Javier Milei. Donc anarcho-capitaliste, anti-système, qui veut dynamiter la banque centrale, avec une Argentine qui est effectivement dans une situation assez délicate. 51% des Argentins reçoivent des allocations de l'État. Un charmant bonhomme, ah oui, complètement, oui. Climato-sceptique. Qu'est-ce que tu avais à dire anti-système? En tout cas, c'était un candidat qui se positionne contre la caste dirigeante de Buenos Aires. Pourquoi ils ont voté pour lui? Ils ont sans doute été séduits, j'en sais rien, je sais pas. C'est comme le vote pour Trump ou pour Bolsonaro, hein. Il est aussi anti-avortement. Ah, il est aussi anti-avortement? Ouais, bah ça complète le tableau, ouais. La bourgeoisie a voté CQFD. Bah pas vraiment, non. Non, non, les gens qui ont voté pour lui, ça n'a pas l'air d'être la bourgeoisie des grandes villes, hein. Buenos Aires, ils ont majoritairement voté pour Massa. Il a l'entièreté du package, le bonhomme, dis donc. Ouais, complètement. J'ai lu qu'il voulait adopter le dollar américain pour l'Argentine. Bah, ouais, moi, en tout cas, dans l'article, là, ils disent qu'il veut dollariser l'Argentine. Donc, sans doute, ça veut dire ça. Oui, ça veut dire adopter le dollar américain comme monnaie nationale. Les bourgeois veulent rarement tout casser, les fachos, par contre. Ouais. Il veut dépendre de la Fed. Est-ce que c'est possible? Je sais pas, j'en sais rien. C'est une bonne question. Faut sans doute d'abord demander l'autorisation. Après, le dollar, c'est un. Le dollar, c'est une monnaie d'influence aussi pour les États-Unis. Je pense que les États-Unis seront ravis que l'Argentine devienne vassalisée par l'utilisation de la monnaie. Les crocodiles ont voté pour le maroquinier, c'est si triste. Sur la chaîne Dos Politique, on a lu ce matin qu'il était favorable à la vente d'organes. Bah, s'il est anarcho-capitaliste, oui. Il y a un moment, bon, tout doit appartenir au marché, le marché doit décider de tout, l'État doit être réduit au minimum possible. Ouais, non, ça a du sens, hein. Est-ce que c'est vraiment une surprise son accession au pouvoir? Bah, la campagne était présentée visiblement comme serrée entre lui et Massa. Massa était arrivé en tête au premier tour, mais visiblement c'est lui qui a réussi à faire basculer les indécis. À peu près 10% des électeurs se disaient indécis. C'est qui l'équivalent en France? J'ai l'impression qu'on n'a pas ce genre de candidat. Non, en France, on n'a pas beaucoup de candidats. Ça, c'est vraiment l'Amérique latine. Ils ont un paysage politique qui leur est propre. Et on ne peut pas toujours trouver des équivalents dans tous les partis. Je pensais justement qu'en Amérique du Sud, ils rejetaient l'influence US suite à toutes les opérations d'ingérence. C'est plus le cas. Ah, je pense que c'est plus compliqué que ça. D'après Discord, il est aussi pro-immigration, mariage pour tous, liberté de genre, légalisation des drogues, droit au suicide. Plutôt original pour de l'extrême droite. Eh ben c'est l'Amérique latine, hein, c'est pas la même extrême droite que nous. Mais il est contre l'avortement. C'est bizarre ça. Il veut légaliser la vente d'organes. Ouais, quelqu'un l'avait déjà dit ça. Il veut légaliser la vente d'organes, ouais. Mais il est contre l'avortement. Anti-IVG. Mais pour tout. Pour la liberté de tout le monde, sauf la liberté des femmes. Liberté, mais pas trop quand même. Oui, c'est ça. Il est aussi pour la vente d'armes. Oh bah oui, bah tant qu'à faire. Donc il y aura plus d'armes vendues, moins de légalisation, moins d'avortements. Pour la liberté de choisir à la place des autres, oui, c'est ça. Les gens ont tendance à confondre l'extrême droite et le libéralisme classique que l'on pourrait en quelque sorte qualifier d'ultra-droite. Non, mais c'est effectivement un autre paradigme où tu peux avoir différents types d'extrême droite, effectivement. Tu as des extrêmes droites qui sont fascisantes, militarisantes, etc. Et tu as des extrêmes droites qui sont ultra-radicales dans le libéralisme économique. C'est là que tu vas retrouver des libertariens, des anarcho-capitalistes. Ils peuvent être d'accord sur plusieurs trucs, comme ils peuvent ne pas être d'accord sur tout. Par exemple, les drogues, ils sont pas d'accord là-dessus. Massa l'a aidé pour essayer de diviser les voix de droite, mais il s'est passé ce qu'il espérait, une sorte de barrage républicain. Ouais. Courage aux Argentines et aux Argentins, ouais. Ouais, carrément. Non, effectivement, c'est pas une belle personne, le monsieur, hein. Pardon, il n'y a pas eu de barrage, je manque un mot. Oui, c'est ça, il n'y a pas eu de barrage républicain, ouais. Ce mec a quoi comme pouvoir politique concrètement? Eh ben, il est président argentin. Alors, je ne connais pas le système politique argentin suffisamment pour pouvoir te dire exactement quelle est sa marge de négociation et tout. Ce que je sais, c'est que l'Argentine est un pays endetté auprès du FMI. Donc, il ne va pas pouvoir faire absolument tout ce qu'il veut, il va devoir négocier. Il a 38 députés sur 260. Ah, mais il va y avoir des élections générales bientôt, non? Je sais pas comment fonctionne le calendrier argentin. Est-ce qu'ils font des élections générales après l'élection présidentielle? C'est un Bolsonaro bis. C'est une sorte de Bolsonaro argentin, ouais. ATM, il n'a pas de majorité, il a perdu les élections législatives il y a quelques semaines. Ah. Eh ben, il va pas pouvoir faire grand-chose alors. Il va brasser de l'air, hein. Je sais pas, je connais pas le pouvoir exécutif précis du président argentin. Gouverné par décret, bah ouais, à mon avis, ça doit être ça. Il doit y avoir des executive orders ou des trucs comme ça. Il y a une bonne vidéo Le Monde qui résume. Ah, mais j'ai pas les droits de diffusion des vidéos du monde. Faudrait que je leur demande. Comment il peut être élu avec 30 députés? C'est un scrutin majoritaire et uninominal. Il a remporté les suffrages. Oh, et je vous rappelle qu'Emmanuel Macron a été élu en 2017, il avait zéro député, hein. L'armée le soutient à fond, ce sera sans doute utile pour gouverner. Ouais, ça peut aider. Salut Jean, tu parles du nouveau président argentin. Ouais, on vient de lire un article sur le nouveau président argentin. Qui a l'air d'être une très belle personne, dis donc. Certains disent que les gens ont voté pour lui justement parce qu'il n'a pas de majorité et que virer Massa était leur priorité. D'accord. Ah, il y a aussi du vote utile pour virer Massa. Il est négationniste au sujet de la dictature des années 70. Quel bonheur. Mercredi, début des questions à Borne. Ouais, demain, il y a la séance des questions au gouvernement qui commence à 15h. Et mercredi, il y a les questions à Elisabeth Borne qui commencent à 14h. Donc moi, je vais faire des streams sur les deux, comme d'habitude. Je vais faire les questions au gouvernement des deux séances, et puis on verra bien comment ça se passe. De toute façon, c'est un essai qui va durer jusqu'en février prochain. Il y a deux séances. Ouais, il y a deux séances par semaine. Une le mardi, une le mercredi. Retour d'une petite guerre des Malouines incoming. Ah, tu penses qu'il va réenvahir les Malouines? Question à Borne Kesako. Alors, la séance des questions au gouvernement, d'habitude, vous étiez habitué sur cette chaîne, depuis 3 ans, à avoir 2 heures de séance le mardi. Ça va changer à partir de cette semaine, il y a une réforme du fonctionnement. On aura une séance de questions au gouvernement qui aura lieu à 15h le mardi, mais qui ne va durer qu'1h15. Et il y aura une deuxième séance le lendemain, le mercredi, après le Conseil des ministres, qui va durer 45 minutes. Et a priori, de ce que j'ai compris, les questions de mercredi seront davantage dirigées vers la Première ministre Elisabeth Borne. Ils font ça pour dynamiser la séance parce que 2 heures c'est trop long et pour avoir une séance qui est juste après le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a lieu le mercredi matin et donc ils veulent faire une séance après le Conseil des ministres pour ne pas se contenter d'une seule séance avant. 2 heures c'est trop long pour qui? Pour les parlementaires et les membres du gouvernement. Comment ça, les questions à Elisabeth Borne, c'est-à-dire elles concernent quoi ces questions? Elisabeth Borne, c'est la première ministre et elle répondra à des questions qui lui seront posées par les groupes politiques de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a un amendement qui passe pour ça ou ça se fait avec l'accord de tous? C'est une décision qui a été prise en bureau à l'Assemblée nationale. C'est le bureau qui décide de ça. Est-ce que c'est les députés qui décident de cible de réforme de fonctionnement? Oui. Du coup, que des questions posées par des présidents de groupe? Je ne sais pas encore. On verra mercredi. Est-ce qu'elle aura toujours un temps de parole plus élevé que les autres le mercredi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est la première fois que ça a lieu là. C'est une nouveauté. Et donc on va découvrir ensemble mercredi à quoi ça va ressembler. Du coup, le temps de parole sera toujours de 2 minutes. Je ne sais pas. ils vont quand même devoir se téléporter entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Non, non, mais ça, ils le faisaient déjà, les députés, enfin, les membres du gouvernement, pardon. Ils le faisaient déjà avant. C'est habituel. Historiquement, il y avait toujours deux séances, une le mardi et une le mercredi. C'est que depuis 3 ans qu'on a une seule séance le mardi. Depuis le Covid. Non, c'était avant le Covid, c'était en 2019 que ça a changé. C'était en 2019 que ça a changé, visiblement ça leur convenait pas. Quand l'Assemblée et le Sénat se réunissent, ils le font où? Ils le font à Versailles, dans une aile du château de Versailles, dans laquelle se trouve la salle du Congrès, où se réunit donc le Congrès. Est-ce que ça ne va pas refaire disparaître le Sénat? Il était déjà pas très très bien apparu, hein, le Sénat. J'en profite d'ailleurs, Baxit jeudi. Baxit jeudi sera en partenariat. On va faire un Baxit exceptionnel à la Bellevilloise. La Bellevilloise, c'est un lieu à Paris. Et on sera en partenariat avec France Digital. On sera en partenariat avec France Digital et c'est l'occasion. Ils organisent un événement qui s'appelle les Impact Days. L'occasion de mettre en avant, donc de discuter avec des startups qui font de l'innovation. De l'innovation dans le champ social, dans le champ environnemental. Et donc, on va faire une émission spéciale en partenariat. On va discuter avec des gens qui sont dans des startups, qui ont créé des startups, qui essaient d'être utiles, etc. Trop bien la Bellevilloise. Ouais, ça va être cool. Tu pourras leur dire que ton chat est crispé par cette utilisation de digital plutôt que numérique. Ouais, je leur dirai, ouais. Pourquoi les QAG version Assemblée nationale sont plus médiatisées, font plus de polémiques et de bruit que celles du Sénat? Parce que l'Assemblée nationale est la dépositaire de la souveraineté nationale. C'est là que sont élus les députés. Et les députés ont plus de pouvoir que les sénateurs. L'Assemblée nationale peut avoir le dernier mot sur le Sénat dans la plupart des cas. C'est quoi le nom de l'event? C'est Impact Days. C'est Impact Days et c'est en partenariat, ouais. C'est mon dada, les startups. Eh ben moi, je connais pas très bien, donc du coup, ils vont nous expliquer. Ils vont nous expliquer et on va rencontrer du coup des innovateurs, des politiques et tout. On va parler d'innovation. Si vous avez des questions, c'est l'occasion, n'hésitez pas. Quelle heure il est là? 17h49. Je crois que je vais pas tarder à arrêter. Je suis fatigué en ce moment. J'ai du boulot. Précision, Palais des Congrès, il n'est pas dans une aile du château, mais tout près. Oui, t'as raison, c'est pas une aile du château, t'as raison. C'est un bâtiment pas loin. C'est quoi le modèle de ton casque? C'est le DT770 Pro. Petite question sur Baxit, s'il te plaît. J'aime beaucoup l'émission et j'en suis un fidèle viewer depuis 3 ans. Mais envisages-tu d'avoir une mère issue de la ruralité? Là, on est très Paris et grande métropole. Ça dépend des émissions. Oui, on est à Paris. C'est une émission nationale, Baxit. C'est une émission qui fait de l'actualité nationale. Donc, on ne peut pas recevoir un élu rural pour nous parler de sa ville. Ça ne risque de n'intéresser que les personnes qui habitent dans sa ville. J'en suis navré. Olivier Marleix, c'est pas un élu rural. Bon, il est élu de l'Eure-et-Loir, Olivier Marleix. Mais il est président d'un groupe à l'Assemblée nationale. Après, il faudrait qu'on essaye de faire une émission en partenariat avec l'Association des maires de France pour parler des maires ruraux ou l'Association des maires ruraux de France. Après, est-ce qu'ils ont envie de s'adresser aux jeunes sur Internet? J'en suis pas persuadé. Le président de l'AMF, peut-être. J'aimerais bien recevoir le président de l'Association des maires de France. Oui, ça, j'aimerais bien. Mais bon, il est maire de Cannes. Alors, est-ce que Cannes, c'est une ville rurale? Non, c'est une ville côtière. Mais on essaye, hein, on essaye, on fait notre maximum, on travaille sur Baxit avec toute l'équipe que je remercie d'ailleurs, pour essayer d'avoir des invités politiques de qualité chaque semaine, essayer d'avoir de la diversité politique entre les invités qu'on reçoit. Et c'est pas toujours facile. Mais oui, Baxit, c'est une émission qui est à Paris. C'est une émission qui est à Paris. C'est à Paris qu'on a le plus de chances d'avoir des invités politiques nationaux. Sur une ancienne vidéo, tu parles du serveur Minecraft Acropolis, ça avait l'air trop bien. Non, il a disparu, il n'y en a plus. Il n'y a plus de serveur Minecraft. C'était à l'époque d'Acropolis, ça. Inviter des politiques des dom-toms, c'est possible. Bah, on l'a déjà fait, on a reçu Olivier Servat. J'espère que ça t'a plu. J'avais écrit chroniqueur en inclusif, mais ça a été remplacé par des étoiles. C'était plutôt, est-ce que tu envisages des chroniqueurs plus ruraux? Ben, je sais pas. Je demande pas. Je demande pas trop à mes chroniqueurs où ils habitent. En fait, c'est pas trop le critère de sélection. Comment ça se fait que les politiques voient directement Latifa ou Usul comme des opposants alors qu'ils ne font que porter la contradiction comme des journalistes normaux? Ils les voient pas comme des opposants, hein. Ils répondent à des questions qu'on leur pose. Est-ce que tu compterais inviter Hugo sur des backseats? On verra. Ah bah j'ai raté. Bah ouais, t'as raté Olivier Servat, ouais. Quand on dit député de tel ou tel département, ça veut dire quoi, un député par département? Les députés sont élus dans des circonscriptions au niveau local. Donc on dit d'où est élu un député, dans quel département est la circonscription du député à qui on est en train de parler. Est-ce que tu comptes inviter Jordan Bardella sur Baxit? Non. Enfin, ils répondent avec quand même à Usul un peu différemment qu'à d'autres. Ils sont plus au courant de ses positions politiques que pour d'autres. Oui, mais ils acceptent la contradiction, hein. Les invités politiques sur Backseat, ils savent qu'ils vont avoir de la contradiction sur le plateau. Ils viennent pas chercher de l'amitié. De la même manière que quand vous regardez Backseat, vous savez que Backseat ne se, vous n'allez pas entendre que des gens, des invités politiques qui sont d'accord avec vous. Vous allez entendre de la diversité. Bah c'est pareil. Il y a de la contradiction, mais aussi savoir comment donner la contradiction. Je regrette un décalage d'ambiance, de ton parmi les chroniqueurs selon la couleur politique de l'invité. Ben oui, mais mes chroniqueurs sont pas des journalistes. J'ai fait exprès justement d'avoir des chroniqueurs qui viennent d'environnements différents et qui sont pas que des journalistes. Donc mes chroniqueurs, ils posent leurs questions comme ils sont, eux-mêmes. Ils jouent pas un rôle. Merci Altoz pour ton resub. Est-ce qu'un jour tu n'inviteras plus les élus LR si tu trouves qu'ils sont trop proches des idées du RN? Je sais pas. J'en sais rien. J'ai pas la réponse. Question un peu. Question bête peut-être. Qui est journaliste parmi les chroniqueurs de Backseat? Sacha, elle est journaliste. Hugo, il est journaliste, je crois. Latifa, elle est ancienne journaliste. Quand Sacha et Mélenchon se frittent, c'est pas juste de la contradiction, c'est du fight un peu. Oh, c'est plus Mélenchon qui frite Sacha que Sacha qui frite qui que ce soit. Mais Jean-Luc Mélenchon n'est pas la même personnalité qu'Olivier Marleix. Vous l'aurez remarqué. Bonne question sur les LR trop proches du RN. Est-ce que tu inviterais Ciotti par exemple? Je sais pas. J'en sais rien, j'ai pas la réponse. Est-ce que ça risque pas d'effrayer les invités plutôt à droite de voir ce qu'il se passe sur le plateau comme jeudi dernier? J'en sais rien. Je sais pas. Je pense pas. Il s'est passé quoi jeudi dernier? Les discussions avec Olivier Marleix étaient assez tendues. Olivier Marleix a été très sincère dans ses opinions. Et il se trouve qu'on a parlé du sujet d'actualité du moment, c'est la loi immigration. Et il a dit tout le mal qu'il pensait de l'immigration et toute la nécessité qu'il pensait de la réguler. Est-ce que des élus FN essayent de se faire inviter? Non. Il vous a piégé du coup? Bien sûr que non, il nous a pas piégé. On savait très bien à quoi. On savait très bien qui on recevait. On s'était préparé. En tout cas, personnellement, j'ai vraiment bien aimé l'émission de la semaine dernière. Merci. Merci à toi. Tu choisis tes invités ou tu reçois des demandes? Je choisis mes invités. Les demandes que je reçois sont toujours déçues. Est-ce que c'est pas le plus gros mensonge de notre temps que l'immigration est un sujet? Écoute, il n'aura pas échappé à ta sagacité qu'il y a une loi immigration qui est en train d'être discutée au Parlement. Je me pose une question depuis jeudi dernier. Tu penses que Marlex a été pris au naturel avec ses lapsus super limite où il cherche à créer du buzz? Oh non, non, c'était 100% naturel. Je pense pas qu'il ait calculé quoi que ce soit, Olivier Marlex. Hein. Non, non. Il était 100% naturel. Et du coup, tu fais des demandes aux politiques en fonction de l'actualité. Exactement. On demande à des politiques de venir sur le plateau de Backseat en fonction de l'actualité. En général, on le détermine le lundi. Est-ce que tu es heureux de ce qu'est Backseat? Ah oui, moi j'aime beaucoup Backseat. C'est une émission plurielle, c'est une émission diverse. Vu que c'est une émission qui s'adresse aux personnes qui s'intéressent peu à la politique, qui regardent peu la politique, moi je suis content de montrer la diversité du paysage politique, la diversité de la politique sur le plateau. Et je voudrais continuer à faire ça. Pas trop de frustration des chroniqueurs de ne pas poser toutes les questions qu'ils souhaitent. On a toujours des frustrations en sortant du plateau parce qu'on a préparé évidemment plein de questions. Et évidemment, le temps est compté, on ne peut pas en poser autant qu'on veut. Mais on a quand même la chance de pouvoir faire des émissions, on a quand même la chance de pouvoir faire des interviews politiques qui durent 40 minutes. Ça, c'est très très rare. Quelle réaction tu peux avoir entre la TV et Backseat? Je sais pas, moi je regarde pas la télé, je connais pas la télé. Ça m'intéresse pas. Est-ce que selon toi, tu réussis vraiment à atteindre cette population qui ne s'intéresse pas à la politique? Oui, bien sûr. Bien sûr. Il n'y a qu'à discuter avec les gens qui viennent dans le public, discuter avec les gens que je rencontre et qui découvrent Backseat, etc. À chaque fois, je leur demande. Et ils me disent toujours que la politique, c'est quelque chose qu'ils découvrent. Si vous n'invitez pas le RN, elle est où la diversité? La diversité ne se limite pas au Rassemblement national. Il est grand le champ politique français. Des os, pas des os, mais si le sujet chaque semaine c'est l'immigration ou le droit légitime de coloniser, j'ai pas vraiment envie d'être là. Mais t'as le droit de pas avoir envie d'être là, hein, c'est normal. Et je t'accorde qu'en ce moment, l'actualité politique tourne beaucoup autour du conflit israélo-palestinien, de la loi immigration. Il y a le Congrès des maires de France qui arrive bientôt. Le RN est tout de même le second parti de l'Assemblée nationale. Écoutez, je suis désolé, les militants Rassemblement national, vous n'aurez pas le Rassemblement national sur Baxit. Baxit n'invitera pas l'extrême droite sur son plateau. On invite déjà les Républicains, c'est déjà pas mal. Vous arriverez à survivre au fait que Baxit n'ouvre pas son micro au Rassemblement national. Il y a le rapport interministériel sur la protection de l'enfance, mais ça passe souvent à la trappe comme sujet, malheureusement. Oui, je te le confirme. Nous sommes d'accord que Marlex a dérapé sans le faire exprès en live ou c'était assez réfléchi? Non, non, c'était sans faire exprès. Oh, c'était pas réfléchi. Hein. Où se situe la limite? Écoutez, moi pour l'instant, la limite, je l'ai fixée au Rassemblement national et à Reconquête, et à leurs alliés. Pour l'instant, les Républicains ne sont pas alliés du Rassemblement national. Ça pourrait peut-être changer. Peut-être municipal, tiens, par exemple, peut-être qu'il y aura des listes communes. Mais Baxit n'est pas, n'a jamais été et ne sera jamais une émission de gauche, entendue sous le sens émission qui n'accueille que des gens de gauche pour leur demander de dire des choses de gauche à un public de gauche qui est bien content d'entendre des choses de gauche. Ça, c'est pas du tout le projet Baxit. Ça ne l'a jamais été dès le début. Baxit, c'est une émission pluraliste qui s'adresse à un public éloigné de la politique pour essayer de les réconcilier avec la politique. Donc Baxit ne sera jamais un entre-soi. Et pour autant, il y a des limites au pluralisme et le Rassemblement national et Reconquête ne font pas partie de l'arc acceptable sur Baxit. Est-ce que ta vision de la politique a changé depuis que tu as commencé? Est-ce que tu as des moments où tu es moins intéressé par la politique? Ah oui, bien sûr, en ce moment, ça me saoule. En ce moment, si tu veux, les discussions sur l'immigration à l'Assemblée nationale, je trouve ça nauséabond et ça m'intéresse pas beaucoup plus que ça. Hein. Tu penses que LR reviendront sans souci sur le plateau ou auront des exigences? J'en sais rien, j'ai pas la réponse, je les ai pas eu au téléphone à LR. C'est quoi ton sujet préféré? Moi, c'est la question démocratique, le truc qui m'intéresse le plus. Est-ce que tu risques pas d'avoir des soucis par rapport au temps d'antenne des... Non, ça n'existe pas sur Internet. Est-ce que tu as des exigences des invités ou tu refuses tout? Il n'y a jamais eu d'exigences des invités. Merci Sowen pour ton resub. Merci à toi, merci Rachel. Merci Wissen. Merci Boson. N'y en a pas qui réclament des petits fours, des crocodiles Haribo, non. Quand tu veux un politique sur Baxi, tu demandes directement aux politiques ou aux partis. Oh non, non, aux politiques directement. Et du pluralisme parmi les chroniqueurs. Quoi, il n'y en a pas suffisamment du pluralisme parmi les chroniqueurs? Après, encore une fois, comme Backseat, c'est une émission qui s'adresse à un public large, au sein du public que touche Backseat, il y a des points de vue différents sur la diversité de Backseat. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que Backseat est trop à droite, d'autres qui, beaucoup de gens qui trouvent que Backseat est trop à gauche. Chacun va avoir un regard très très différent sur l'émission. Donc comme je ne sais pas exactement comment vous vous positionnez vis-à-vis de vous-même, je peux pas vous répondre. Trop à droite? Ah oui. Ah oui, je ne sais pas si tu connais twitter.com, mais sur twitter.com, il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui trouvent que Baxi était trop à droite. Et qui préférait que Baxit soit un entre-soi, mais ça ne le sera jamais. Twitter ne représente rien. Oui, non, je suis bien d'accord. Y en a même qui traitent Usul de social-démocrate. Ah oui, non, il y a des gens qui trouvent qu'Usul est trop à droite, hein. Bien sûr. Tu dis ne pas regarder la télé, j'en conclus même pas la chaîne parlementaire. Ah non, non, je regarde pas la télé. J'ai pas la télé chez moi. J'ai pas vraiment, hein, j'ai pas regardé la télé depuis 10 ans, 15 ans. Je connais pas la télé. Je sais qu'il y a des gens qui regardent la télé et qui regardent des émissions sur Internet, des émissions de télé, etc. C'est pas du tout mon cas. Moi, je suis. Ça fait 10 ans que je suis 100% culture web, YouTube, Twitch, Insta, TikTok. D'ailleurs, c'est un problème, hein. Quand je suis invité à la télé, on me présente des gens en me disant ce mec est super connu. Je dis, mais je ne le connais pas. Même c'est ce soir avec Karim Rissouli. Même c'est ce soir, je ne regarde pas c'est ce soir, je connais pas c'est ce soir. J'ai regardé des extraits, j'ai vu des bouts, j'ai dû. Parfois, je me force à regarder des émissions parce que ça me permet moi de préparer les miennes. Le milieu TV est totalement perméable à ton émission et travail, c'est-à-dire perméable. Qu'est-ce que tu entends par là? C'est ce soir en podcast, c'est cool. Il faudrait que j'essaye un jour. Mais j'ai déjà eu des expériences à la télé. Hein. On m'a invité. J'ai été chroniqueur sur LCI pendant plus d'un an. J'ai été chroniqueur sur France Inter. J'ai été chroniqueur sur France Info. Enfin, non, c'est pas de la télé. J'ai été invité sur France Info plusieurs fois. J'ai été invité dans C'est à vous. Mais c'est pas des émissions que je regarde. Public Sénat, j'ai été producteur d'une émission pour Public Sénat, enfin c'était un stream en l'occurrence. Public Sénat diffusait un stream à la télé. Est-ce qu'il y a déjà des politiques qui t'ont demandé de venir dans Baxito? Oui, il y en a déjà, mais je les ai tous éconduits. Comment est vu ton travail par ces médias et les politiques? Honnêtement, je ne sais pas, je leur pose pas la question et ça m'intéresse pas beaucoup. Même les politiques, hein, qu'est-ce que les politiques pensent de mon travail? j'en ai pas grand-chose à foutre. Donc du coup, je leur demande pas. C'est dans C'est à vous qu'on t'a accusé de promouvoir l'extrême droite en refusant de les inviter. Non, c'était dans une autre émission qui s'appelle Quelle époque, je crois, et qui est diffusée sur France 2, je crois, de mémoire. Il y a parfois des extraits de Backseat qui sont rediffusés à la télé classique, d'où je pense le côté perméable. Ah bon? La télé, il diffuse Backseat? J'ai jamais vu. En même temps, je regarde pas la télé, donc j'ai aucune chance de les voir. S'ils diffusent, ils doivent pas te payer. Ils doivent demander l'autorisation et ça peut se monnayer. Ça peut se monnayer. Si une personnalité politique veut venir dans Backseat, est-ce que tu as des conseils? Non. Ne nous envoyez pas un message pour nous demander de venir dans Backseat. Ça nous emmerde plus qu'autre chose. Est-ce que ne pas regarder la télé ne risque pas de te faire perdre une partie du spectre politique français? Bah non. Enfin, je sais pas, jusqu'à présent, ça me... c'est pas un handicap. Ne pas regarder la télé n'est pas un handicap pour moi. Si une personnalité publique type Thomas Pesquet ou Omar Sy te demandait à venir dans Backseat, tu refuserais? Sûrement pas en invité politique. Et en invité de première partie, pourquoi pas? Faudrait en discuter. Enfin, faudrait que ça ait du sens, quoi. Faudrait qu'on trouve une raison. Non, je sais pas, vous regardez beaucoup la télé, vous? Est-ce que vous regardez beaucoup la télévision? Est-ce que vous regardez beaucoup des émissions politiques à la télévision? Je vous demande pas si vous regardez du divertissement, du sport, etc. Mais est-ce que vous regardez beaucoup d'émissions politiques à la télévision? Non, jamais. Pas vraiment. Oui. J'ai vu quelques oui, mais une immense majorité de non. Un peu, pas du tout. Ok. Uniquement pour Netflix. Ok. Ok. Bon, bah comme quoi. Je regarde Backseat sur ma TV, ça compte. Ouais, t'as le droit, c'est le meilleur endroit. Bah, n'hésitez pas d'ailleurs oh là là. N'hésitez pas à soutenir et à financer Backseat. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on est toujours en financement participatif. Si c'est pas déjà fait, venez sur le KissKissBankBank, point d'exclamation KissKiss, pour faire un don. N'hésitez pas, ouais, à faire un don pour soutenir cette émission et la rendre possible chaque semaine. On continue à monter dans nos paliers. Merci à vous. Je vais m'arrêter là, moi. Merci d'avoir suivi ce stream. C'était cool de vous parler. On se retrouve demain donc pour les questions au gouvernement, l'après-midi. Et voilà. Passez une bonne soirée. À très bientôt. Ciao, ciao.